Radio Capi, grand témoin.
Bonjour et merci de rester fidèle à Grand Témoin. Grand Témoin, votre émission qui vous fait découvrir ceux qui ont été témoins de différentes époques et différents changements que le Congo a connus, des différents événements que le Congo a connus dans tel ou tel autre domaine, c'est-à-dire politique, économique, culturel ou encore sportif. Vous le savez, tous ces témoins sont disséminés à travers la République. Aujourd'hui, nous sommes dans la province de l'Équateur, plus précisément à Mbandaka. Et notre grand témoin est Jean-Louis Efoloko. Il est coordonnateur provincial de la stratégie des luttes contre la pauvreté dans la province de l'Équateur. Monsieur Efoloko, c'est un plaisir de vous recevoir dans nos studios.
Merci madame. Kelly, j'ai toujours entendu parler de vous. C'est une occasion, un avantage pour moi d'échanger avec vous.
Merci. Alors, dans cet entretien avec vous, on parlera de votre personne. On va vous faire découvrir auprès des auditeurs des Radio Capi. Vous nous parlerez de cette structure que vous coordonnez pour lutter contre la pauvreté dans la province de l'Équateur. Mais avant cela, commençons par une petite biographie de votre personne. Vous êtes né à Mbandaka.
Je suis né à Mbandaka le 29 juin
1950. Et c'est à Mbandaka où vous avez grandi?
C'est aujourd'hui que je passe un long temps à Mbandaka. Dès que je suis né, je suis arrivé à Kinshasa en 1950. J'avais encore 6 mois.
Et pourquoi ce changement?
Ah, mais justement, papa est allé là-bas et on devait le suivre avec maman. Mmh. Juste après ma naissance, on est allé à Kinshasa, papa travaille là-bas.
Donc vous avez passé votre enfance à Kinshasa?
Pendant les 8 premières années.
Vous avez fait vos études primaires là-bas?
Oui, j'ai commencé à l'école officielle de Yolo. De Yolo, en 56. Et en 58, nous avons quitté Kinshasa pour rentrer en Mbandaka.
Encore une autre mutation des papas?
Justement, nous sommes venus ici.
Les 8 premières années, vous les avez passées à Kinshasa. Puis vous êtes revenu à Mbandaka. Mmh. Et là, et ici, vous avez poursuivi vos études humanitaires.
Et les études primaires d'abord, que j'ai continuées et que j'ai terminées en 63. Je suis allé aux études secondaires que j'ai terminé en 69 à l'Atelier de Bakusu, la troisième promotion des examens d'État.
Vous avez fait quelle section secondaire?
Commerciale et administrative.
Quel souvenir vous gardez de votre enfance? Qu'est-ce que vous a marqué pendant votre enfance?
Ce qui m'a le plus marqué, c'est le fait qu'on ait quitté Kinshasa et que papa ait pris la décision de rentrer ici. J'ai vu comment on construisait Yolo. De Yolo, on était à Yolo Nord, on est passé à Yolo Sud, et je devais quitter les amis d'enfance, et cela m'a choqué, vraiment, ça m'a dérangé en venant ici. Et le grand souvenir, quand je suis venu ici, bon, j'ai découvert un nouveau monde pour moi.
Comment était la ville de Mbandaka comparativement à Kinshasa que vous avez quitté lorsque vous aviez 8 ans, je crois?
Oui, certainement, parce que quand j'étais à Kinshasa, bon, le monde était différent, bien qu'on était des enfants. On avait notre milieu de vie, on avait une autre condition de vie, mais quand on est venu ici, on devait recommencer avec papa parce que tout devait commencer, on devait avoir des nouveaux amis, et certainement. Et mon premier ami qui est encore vivant ici à Mbandaka, que j'ai trouvé en 58, c'est M. Issifia Jérôme, qui est le directeur du personnel à l'Institut supérieur pédagogique, parmi les gens que j'ai trouvés en 1958. Des années après, je cherchais mon premier enseignant de Mbandaka et que je viens de découvrir il y a 3 ans seulement. Monsieur est allé et il est encore là et vraiment bon, on s'est habitué.
Alors de Mbandaka, après vos études secondaires, vous êtes allé à Lubumbashi pour poursuivre l'université.
Je suis allé à l'université officielle du Congo. À l'époque, on nous envoyait des billets. Je donnais cours à la Tene Bakusu pendant 3 mois en attendant que je reçoive un billet. Et on m'a appelé à l'Air Congo. Monsieur Jean-Louis.
Vous avez donné cours avant d'aller à l'université?
Oui, attendant qu'on m'envoie.
À l'école primaire?
Non, à l'école secondaire. Enfin. J'ai donné cours pendant 3 mois à l'école où je suis sorti, en 3e commerciale, en attendant que je ne parte. Et juste le 25 décembre 69, on me dit non, Jean-Louis, on a entendu ton nom à la radio. Radio Coq, tu arrives là-bas, tu vas à Air Congo retirer ton billet pour Lubumbashi. Et je suis allé le 26 décembre retirer mon billet pour voyager le 2 janvier 70.
C'était des bourses qu'on donnait?
Justement,
aux nouveaux étudiants?
Oui, le ministère de l'Éducation octroyait des bourses d'études qui étaient de 10 000 francs, de 10 000 zaïres.
À tous les étudiants ou ceux qui avaient fait 70%?
On devait réussir aux épreuves de maturité. On avait instauré les épreuves de maturité, et avoir aussi un bon pourcentage.
Ah, c'était quoi les épreuves de maturité?
C'était un test là, lorsqu'on préparait, on présentait les examens d'État, il y avait aussi un autre test parallèle à celui-là, qui mesurait la maturité de l'étudiant pour accéder à l'université. Et en ces moments, il y avait le diplôme d'État et le certificat d'État. Moi, j'avais eu 64%, c'est-à-dire que je devais directement aller à l'université, même si on avait aussi 50%, mais on devait réussir au test de maturité qui accordait le droit à la bourse. Mm-hmm. Et c'est ainsi que j'avais été retenu et on m'a envoyé mon billet, je suis allé à Lubumbashi.
Et à l'université de Lubumbashi, mm-hmm. vous avez fait les sciences commerciales et financières.
J'ai fait les sciences commerciales et financières pendant 2 années de candidature, ce qu'on appelle aujourd'hui gradua, c'était les candidatures après lesquelles nous sommes venus faire les licences à Kinshasa lorsque le président Mobutu avait pris la décision d'uniformiser, de former une seule université avec les 3 campus de Kinshasa, Lubumbashi et Kisangani. Alors on a formé l'UNALSA et nous sommes venus à Kinshasa, là où nous sommes venus faire les licences en sciences commerciales et financières.
Et pourquoi vous avez choisi cette option? Pourquoi vous avez choisi de faire l'économie?
Je crois que ce n'était pas vraiment un choix. Moi, on m'appelait physicien mathématicien grec. J'aimais les maths. Je suis allé faire un test d'entrée. J'ai commencé même pendant une semaine. Et les amis ont dit non, on ne change pas d'école. Continuons à notre école à l'Athénée de Bakoussou. Et je suis allé faire les sciences commerciales. Ce n'était pas vraiment un choix, moi. Je voulais faire les maths.
Vous vouliez faire les maths pour devenir quoi plus tard, outil plus tard?
Non, c'est-à-dire j'aimais les recherches. Et j'ose croire que si j'avais fait les maths comme j'aimais les maths et les physiques, et la physique par exemple, permettez-moi, je voulais devenir autre chose. J'aimais les recherches.
Est-ce que vous regrettez aujourd'hui d'avoir fait les sciences commerciales et financières?
Je ne regrette pas parce que ça m'a... donner beaucoup d'ouverture, mais mon choix, le premier, aurait été de faire les sciences exactes.
Mmh. Alors, Jean-Louis Foloko, vous êtes marié?
Je suis marié.
Père de combien d'enfants?
J'ai 2 enfants.
Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la vie?
Ce que je n'aime pas, je n'aime pas les paresseux, je n'aime pas les gens qui n'aiment pas travailler, je n'aime pas ceux qui parlent, qui découragent les gens, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça.
Et qu'est-ce que vous aimez?
Ce que j'aime, d'abord, c'est le travail.
Vous êtes un grand travailleur?
Beaucoup, beaucoup. Même au sacrifice.
Alors, parlons de votre parcours professionnel. Après l'université de Kinshasa, vous avez travaillé à la Banque du Peuple à Kinshasa.
Oui, je suis allé à la Banque du Peuple. Vous voyez, juste, on termine les études, on devait chercher...
Vous êtes resté dans votre domaine.
Oui, justement. J'ai postulé un peu partout et j'ai introduit mes demandes d'emploi à la Banque du Peuple, à la Banque Commerciale, et on m'a convoqué pour faire présenter les tests à l'INPP. J'ai fait les tests à l'INPP et j'attendais les résultats. Nous sommes en 1973, j'attendais les résultats et on me prend à la Banque du Peuple. J'arrive là-bas, j'étais invité. Et lorsque je suis arrivé là-bas, j'ai rencontré quelqu'un qui me connaissait depuis le Lubumbashi. C'était le chef du personnel, mais c'est celui de Lukembe, qui dit, mais Foloko, il dit au directeur de siège, M. Isungu Kimaka, c'est celui-là qui a fait le meilleur résultat à l'INPP, 91%. Et alors on le prend directement. C'est comme ça que j'étais engagé à la Banque du Peuple.
Et de la Banque du Peuple, vous êtes allé à la SONAS?
Oui. J'avais été renvoyé de la Banque du Peuple.
Pour quel motif?
J'étais président de la délégation syndicale. Et moi, j'aime la justice. Moi, je gagnais 500 aïrs, c'est-à-dire 1000 dollars. Et mon dactylo gagnait 40 aïrs, c'est-à-dire 80 dollars. Cette carte-là ne m'a pas plu. Et il y a eu des grèves dans tout le système bancaire à Kinshasa. Tout le système bancaire a été paralysé, il y a eu des grèves. J'étais le président de la délégation syndicale et une décision politique est tombée que tous ceux qui étaient dehors devaient être renvoyés, surtout les agents de cadre. Et comme j'étais cadre, j'étais chef de service principal, et nous nous sommes retrouvés parmi les personnes qui avaient été renvoyées. On a demandé qu'on fasse le recours, je dis non, je ne peux pas faire le recours, je n'aime pas les recours moi.
Et comment vous avez vécu cette situation?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire le fait que vous soyez renvoyé parce que vous avez revendiqué les droits des travailleurs.
On ne pouvait pas me renvoyer. Et moi, je me suis dit, puisqu'on m'a renvoyé, c'est-à-dire on l'a voulu. Je reste.
Vous avez accepté la décision?
J'ai accepté la décision. On m'a demandé même de poursuivre la banque. J'ai dit, je ne le fais pas. Je ne le fais pas. Et il y a des amis qui ont fait des recours et qui sont rentrés. J'ai dit, moi, je ne rentre pas. Si on m'a renvoyé, c'est-à-dire on a assez de moi autant que je reste.
Et de là, vous êtes parti à la Soutas?
Oui, un ami à moi m'a appelé, on a fait connaissance avec lui, M. Louonné, et il nous a précédé, il est allé à l'au-delà, il sait plus de moi, et il m'a appelé à la Soutas, je suis allé là-bas. Bon, c'était des relations intimes qui avaient fait que je puisse entrer là-bas, à la Soutas. Et j'ai trouvé que ce n'était pas bien, ces relations-là, je risquais d'être esclave d'un amour là, parce que j'ai eu cet emploi et j'ai quitté.
C'était quoi cette relation intime?
J'avais une amie dont la sœur était l'épouse à la DEF de la Sonas. Uh-huh. Et la DEF de la Sonas avait beaucoup d'estime vis-à-vis de moi. Il a dit, mais dit, Raoul vous a fait partir, hein? Viens chez moi, hein? Viens chez moi à la Sonas, moi je vais te donner du travail. Donc, il a été ce que nous on appelle en lingala mbandananga. Ça dit, Tukutanisikamoko. Et je suis allé là-bas, mais j'ai constaté que la dame là, ma copine là, semblait prendre des airs parce que je suis allé là-bas. J'ai dit non. Alors, j'ai quitté.
Et la relation a quand même continué?
Non, j'ai abandonné le travail, la dame.
Alors, après la Soutas, vous êtes dans le Bas-Congo, dans une société pétrolière.
Oui, je suis allé dans une société pétrolière. J'ai travaillé à la Zairep, l'actuelle Perenkorep. Perenkorep, je suis arrivé là-bas en 81. Et après, bon, c'était bien, on ne s'est pas entendu. Et j'ai quitté, je suis rentré à Kinshasa, je crois, 3 ans après. Je venais de divorcer de ma première femme et je me suis remarié là-bas à Mwanda.
Et de Kinshasa, vous êtes revenu à Mbandaka?
Je suis venu à Mbandaka en 94 lorsque j'ai pris l'option de rentrer dans mon milieu pour faire le développement.
Qu'est-ce que vous entendez par faire le développement?
Et j'avais des nouvelles que chez nous, il y avait un grand retard dans les mouvements associatifs. Et je me suis dit, j'arrive un peu, je vois ce qui se passe là-bas. Et lorsque je suis allé directement au village, faire des champs et autres là, à côté de papa et la maman, qui sont encore en vie d'ailleurs. Et je me disais, je commence par ici au village, je monte une structure d'encadrement et d'accompagnement des pygmées. Je me dis, bon, je vais voir qu'est-ce que je peux faire. Et j'étais continuellement en relation entre le village et Mbandaka. Et j'ai dit, bon, voilà, j'ai vu un grand recul dans notre milieu par rapport à d'autres provinces où il y avait beaucoup de structures, des ONG et autres là. Je me suis dit, bon, si j'ai une occasion et que je puisse me hisser quelque part, il faut que je cherche comment monter des structures, accompagner ou bien suivre ceux qui ont déjà commencé sur le terrain par rapport aux structures de développement. Et juste comme je faisais une navette, on s'est intéressé à moi et après on m'a appelé à des rencontres provinciales lorsque Mzé a pris le pouvoir. Le gouverneur qui est passé à cette époque-là et d'autres personnes ont dit, Monsieur Foloko, comme toi tu es économiste, tu peux venir nous assister dans les projets qu'on est en train d'élaborer pour le développement de la province. C'est ainsi. Bon, je n'étais plus connu à Mbandaka parce que je suis resté pendant presque plus de 40 ans à Kinshasa. À Kinshasa. Et les anciennes figures ont dit, mais ça c'est Foloko, il est revenu. On m'a associé à certaines rencontres. Lorsque Mzé est entré, ça c'est en 97 et en 98. Mm-hmm. Et à la même époque...
On vous a associé parce qu'on reconnaît vos compétences, on sait que vous êtes capable d'aider la province à pouvoir lutter contre la pauvreté.
On avait l'information sur moi. On avait l'information sur moi et pour la province, c'était une occasion de découvrir Jean-Louis Foloko qui est parti des années et qui est revenu. Et c'est à cette occasion qu'on a commencé à m'associer à certains travaux. Et immédiatement après, il y avait l'ouverture du département des sciences commerciales à l'ISP. Et les amis m'ont fait part de ça, c'est ainsi que j'entrerai à l'ISP pour donner cours au département des sciences commerciales.
Mais vous avez arrêté de donner cours, vous ne donnez plus cours?
Oui, j'ai...
Vous n'avez plus assez de temps pour les étudiants?
Surtout ça la raison. D'abord, on a eu un problème, on a travaillé, on a dit, bon, ceux qui ne font pas de publication doivent partir. Moi, j'avais fait une publication, j'ai fait un travail, et c'est une problématique qui doit être réglée même au niveau de la Cour suprême. Et personne ne pouvait lire ce travail dans la ville de Madaka, à l'ISP ou dans la ville de Madaka. C'est la problématique de la SPRL. La SPRL, selon les économistes, c'est la société de personnes à responsabilité limitée. Selon les juristes, c'est la société privée à responsabilité limitée. Alors, la problématique est celle-ci. Est-ce qu'il y a une société publique à responsabilité limitée? Si on parle de la société privée. J'ai fait des recherches et j'ai découvert l'erreur qui s'est glissée dans les textes juridiques depuis 1930 chez le roi de Belge. On lui a fait signer un document en 1955 qui contenait des erreurs. Cette erreur-là de la problématique de la société privée. Et vous devez savoir que les faits précèdent la loi. Donc, ce sont des économistes qui ont inventé l'appellation société de personnes à responsabilité limitée. C'est-à-dire la responsabilité de ces personnes est limitée à leurs apports. Mais ce n'est pas la société privée à responsabilité limitée. Et même lorsqu'on soutenait les enfants défendaient leurs travaux, on était avec des juristes. Je disais aux étudiants, acceptez ce qu'ils disent, société privée. Mais prenez tous les documents de l'État, vous verrez que même dans le registre de commerce, même dans le plan comptable de Kinzonzi, comme on l'appelle entre guillemets, c'est la société de personnes à responsabilité limitée. Et les juristes prennent la société privée qui est une erreur introduite en Belgique en 1933.
Radio Capi, grand témoin. Jean-Louis Efoloko, vous êtes économiste. Parlons de la zaïrisation. Voilà. Oui. Dites-nous, cette décision du président Mobutu était-elle bonne pour relever l'économie congolaise?
Elle était précoce. Elle était précoce quand la zaïrisation est venue en 1973. Et c'était justement l'année à laquelle on était en dernière année à l'université, qu'on devait chercher de l'emploi. La zaïrisation en soi, l'idée pouvait être considérée comme bonne, mais ce n'était pas bon. Enfin, c'était parce qu'on contournait le nom, le mot nationalisation. On contournait le mot nationalisation, on a pris zaïrisation, confié à n'importe qui. Tout celui qui était proche du président de la République, ou bien d'un ministre, ou bien d'une personnalité importante, on lui confie une boutique et on a commencé à manger tout ce qui était là-dedans, et même les étagères, et tout est parti, parce que les gens n'étaient pas préparés. La zaïrisation a tué le pays. Et c'est un coup fatal à mon pays. Quand je prends par exemple le cas de l'Équateur, dernièrement je suis passé à une mission de Radio Capi sur le retour du caoutchouc. L'EVEA, on en trouvait des grandes plantations ici à l'Équateur. C'est abandonné. Tout a été converti en forêt. Le forêt a récupéré des espaces. L'Équateur était un grenier du pays en ce qui concerne le café, le cacao, l'EVEA, et il n'y en a plus rien. À 20 km d'ici, à Ouingé-Sécli, à la société équatoriale, on trouve des vestiges d'EVEA qui sont là. Il avait des grandes usines. Lorsque vous allez à Bikoro et dans la Chuapa, ce sont les EVEA. Je suis content que presque 40 ans après, on revient à l'EVEA. Parce que le caoutchouc naturel ne peut pas être remplacé par le synthétique. Et vous voyez justement, avec la zaïrisation, tout est parti. Tout est parti. C'est ça le malheur.
Vous regrettez cette décision du président Mobutu?
Amèrement. C'est un coup fatal. C'est un coup fatal parce que beaucoup de gens qui ont pris, il y a des rares personnes qui survivent avec ceux qui ont pris. Par exemple, comme M. Léon Ngoulou, je crois, c'est des rares personnes qui continuent à faire l'exploitation de l'EVA et autres là dans la Chuapa. Mais beaucoup ont disparu, tout est parti. C'est remplacé par la bourse.
Est-ce que c'est ça qui est à la base du fait que l'économie congolaise est régressée?
Mais certainement parce que l'économie qui était croissante, qui connaissait une croissance, quand le président de la République a pris le pouvoir, nous, on était encore aux études et on a commencé à travailler en 73. Il y avait une progression vers les années 70. Il y avait une progression. Et du coup, en 73, quand on prend cette décision, on a constaté que les usines ont commencé à continuer à travailler. Mais quelques temps après, la production a commencé à baisser. que ce soit du VIH, que ce soit l'huile de palme et autres là, hein, tout a commencé à baisser. Et l'économie du pays a dégringolé. Parce que juste 3 ans après, nous sommes en 76. En 76, il y a le boom pétrolier. Et il y a le conflit entre le Congo et ses partenaires. Lorsqu'on doit changer les talons dollars pour passer à des talons DTS, hein, droit de tirage spéciaux. Vous voyez ce que ça fait. Un Zaïre valait de dollars. Mais lorsqu'on a quitté les talons dollars et l'augmentation du prix du pétrole, on voit l'ascension en face de Kinshasa. On voit l'ascension, les buildings commencent à naître en 77 au Congo-Brazzaville. Et chez nous, c'est le déclin.
Voilà, juste pour rappeler à tous ces auditeurs qui viennent de nous prendre en cours que Grand Témoin vous présente aujourd'hui Jean-Louis Fouloko. Il est coordonnateur provincial de la stratégie des luttes contre la pauvreté dans la province de l'Équateur. Monsieur Fouloko, lorsque vous n'êtes pas occupé, comment vous passez vos moments de détente?
Il y a plusieurs époques. Je suis le mélomane d'abord de Rochereau. Quand j'étais à Kinshasa, je ne passais aucun moment sans être au concert des Taboulay. Il était mon idole, et à tel ancien que même aujourd'hui, je suis en train d'écrire sur Rochereau un document-là que je prépare déjà, ça fait 16 ans, Le vrai recueil de Rochereau.
Vous le connaissez personnellement ou bien juste comme un mélomane?
D'abord mélomane, et après. Je le côtoyais en tant que mélomane, j'étais le fervent visiteur du Tipka, et lorsque j'ai commencé les recherches pour écrire sur le Taboulay, j'y suis allé échanger avec lui pour avoir la vérité sur certaines chansons, et un document de 220 pages que j'ai déjà préparé où on trouve une centaine de chansons où on parle amour, et c'est toute une thèse. C'est une thèse où on démontre que Rochereau aime autant qu'il pleure.
Mmh. Et quelle est la chanson de Rochereau que vous aimez le plus de tout son répertoire? Il y a quand même une chanson que vous aimez beaucoup.
Oui, il m'avait posé cette question lorsque j'ai échangé avec lui. Et j'ai dit, j'ai 3 chansons que j'aime le plus. Et il m'a dit lesquelles. De parler d'abord, c'est Marie Chantal. Boutouna Moïna Koloto, Bolingo Nanga Maria Chantal, qu'il a chanté en 64, et il y a la chanson Christine.
Christina.
C'est ça justement. Nakosinga na yobo sanangai, na salinyo se koki, et il y a Lokina. Yeba, na zela ki yomingi, na lembi pe na zongi nandako. Ce sont les 3 grandes chansons de Rochereau que j'aime.
Pourquoi?
La profondeur de ces chansons va au-delà. Tu vois, quand je prends par exemple Christine, une dame qui demande à son amant d'aller consulter les sorciers, les féticheurs pour avoir de l'argent, l'homme dit, je n'ai pas d'argent, marions-nous comme ça, je n'ai pas d'argent. Il dit non, et l'homme prend la décision à contre-cœur, il dit, je préfère penser quitte, je ne peux pas aller chez les féticheurs. Et quand je prends Lukina, une femme ou bien un homme qui fait attendre le partenaire, et il lui dit je t'ai laissé un mot, moi je suis sorti. Et l'homme ou la femme, parce que dans cette chanson, ça s'adresse et aux hommes et aux femmes. Yeba, nazela ki omingi, na lembi pe na zongi nandako. Vous voyez, j'étais beaucoup attendu et je suis parti.
Si vous n'aviez pas fait l'économie, vous seriez dans la musique. Ça ne vous a pas tenté à une certaine période de faire la musique?
Beaucoup. Je me rappelle quand j'étais à l'école primaire, j'ai passé mon temps au camp militaire pour écouter la fanfare. Lorsque les militaires s'entraînaient, j'avais 13 ans, j'allais au camp militaire pendant les vacances suivre la fanfare. C'est ainsi que quand je pense au colonel Lono, qui a écrit sur la musique, il était militaire. Il a écrit sur la musique congolaise, zaïroise, et Michel Lono. Et vous voyez, moi je passais mon temps là-bas, et je crois que je pouvais faire la musique. Je pouvais faire ça. Bien sûr, je peux vous dire que avec mon défunt ami Maxime Mongali, on a pu toucher certaines chansons du défunt Bimio Mbale, par exemple la chanson où il dit Nati Kalama Boko Pamba O Kende Babi Yokona Pona Kissimi Sinanga ya sorti. Vous voyez
Christina,
Nakosenga na yobosa nanga Nasali nyonsa ekoki Mpoto sangana na mariage Christina Nakosenga na yobosa nanga Nasali nyonsa ekoki
Foloko, parlons de la structure que vous coordonnez actuellement.
Vous êtes coordonnateur provincial de la stratégie de lutte contre la pauvreté dans la province de l'Équateur. Parlez-nous un peu de cette structure, de quoi s'agit-il?
Nous sommes en 2002. On demande qu'on fasse le DCRP, le document de stratégie de réduction de la pauvreté. Et on a élaboré un premier document qu'on appelle le DCRP intérimaire. Le DCRP intérimaire qui devait traité de tout le pays n'a consulté que 4 provinces. Et en consultant 4 provinces, les partenaires ont dit, mais c'est pas correct, que vous faites une étude pour tout le pays et vous ne consultez que 4 provinces. Le document ne présentera pas la réalité de toutes les provinces. Et en 2004, on dit, il faut qu'on fasse le DCRP national où les consultations se fassent dans toutes les provinces. Et en ce moment, on venait de désigner le gouverneur Mobandou qui n'avait pas encore constitué son cabinet. Et dans chaque province, les gens devaient partir à Kinshasa. 15 personnes par province se retrouvaient à Kinshasa pour présenter chaque comité qui devait faire le DCRP. Et le gouverneur Mobandou a dit, on devait avoir des économistes. On a pris le directeur adjoint de la banque centrale et on a dit qu'on cherche un autre économiste. Il a pensé à moi, il a dit, prenez Foloko, bien que je n'ai pas encore constitué mon cabinet, qu'il soit dans le comité. C'est comme ça que nous sommes partis à Kinshasa. On a eu certaines formations, comment élaborer le DCRP, comment faire procéder aux consultations participatives. Et les consultations participatives ont été faites dans des endroits ciblés. Dans l'Équateur, on a choisi 7 sites, Bikoro, Mbandaka, Gemena, Befale, Bumba, et on a fait les Bolomba, on a fait des consultations auprès de la population. Quels étaient les problèmes de la population? C'est-à-dire, la population devait nous dire comment elle a survécu avec cette misère. Selon le professeur Kalungi, le Congolais serait déjà mort compte tenu des difficultés. Mais comment est-ce que les gens ont survécu? S'ils ont survécu, c'est qu'ils ont développé des stratégies de survie. C'est à ce moment qu'on a fait des consultations, et à partir des consultations, chaque province devait retenir des priorités.
Et pour le cas de l'Équateur, c'était quoi les priorités?
Les priorités, c'était d'abord les infrastructures routières. Les infrastructures routières, les voies de communication, parce que chez nous, la grande route, c'est l'eau. La grande route, c'est l'eau, il y a les routes qui aussi doivent conduire, les routes terrestres qui doivent conduire les produits, la production vers les points d'embarquement. Le premier problème, c'était celui-là. Et il y avait les écoles, le problème de scolarisation, et le problème d'accès aux soins de santé, et l'amélioration de la production. C'était ça. Et c'est comme ça que nous sommes allés travailler à Kisantu. Toutes les 11 provinces devaient présenter. Ça, c'était l'élaboration alors du DCRP national. On a pris 5 priorités par province et on a fait sortir 55 priorités. Parmi les 55 priorités, lorsqu'on les a fondues, ça fait les 5 piliers du DCRP. C'est-à-dire, un problème pouvait être numéro 1 à l'Équateur, il est 3e au Katanga, il est 2e au Kivu. Et c'est ainsi que les 5 piliers du DCRP sont sortis et on a fait sortir le DCRP national. Et maintenant, nous devrions rédiger les DCRP provincial. Oui. Alors, nous avons fait le nôtre, le DCP provincial, avec les priorités, et ce sont les stratégies que nous avons élaborées de 2004, 2005, 2006, et c'est pendant ces années qu'on a fait les travaux.
C'est vrai que vous avez proposé des stratégies pour lutter contre la pauvreté dans la province de l'Équateur, mais le problème qui se pose, c'est comment mettre en œuvre toutes ces stratégies.
On a eu un problème, comment mettre ça en œuvre? Le ministère du plan, le ministère national, en ce moment-là, supportait les comités de DCRP pour le fonctionnement. Après, ça s'est coupé. Et les provinces n'avaient plus de moyens. Nous sommes en 2007, nous sommes dans la nouvelle formule de la décentralisation, de la démocratisation. On devait avoir un document de mise en œuvre de la stratégie. Alors, la province ne faisait rien. Il a eu une initiative des partenaires. Il dit, bon, on va soutenir la province pour élaborer le plan quinquennal. Le plan quinquennal, nous avons fait les travaux. Une équipe de personnes a été recrutée par le PNUD, par sa branche PADEL, Programme d'appui à la décentralisation et au développement local. Et nous avons été la première province à élaborer le plan quinquennal.
C'était la province de l'Équateur.
De l'Équateur. Lequel modèle a été soumis au Nord Kivu, qui a été la 2e province. Et après, lorsque nous sommes allés à un atelier à Goma, le ministre Olivier Kamitatou a souhaité qu'il y ait des plans quinquennaux dans toutes les provinces.
Alors parlons du plan quinquennal de la province de l'Équateur. C'est un plan que vous avez soumis à l'Assemblée provinciale
en 2009.
Qui a été même adopté, je crois.
Oui, adopté.
Mais n'a jamais été mis en pratique ou en application.
Oui, certainement. La mise en œuvre, vous voyez, c'est un document qui contient des budgétisations annuelles. Et qu'est-ce qu'il y a? Lorsque nous élaborons le budget de la province dans sa partie investissement, nous prenons ce qui est dans le plan quinquennal, nous mettons dans le budget d'investissement. Mais il faut qu'ils soient exécutés. Avec quels moyens? Les moyens, il y a les moyens provinciaux, les moyens de la province et les moyens qui doivent venir du gouvernement central. Mais pendant des années, on ne voyait pas l'exécution. Je crois qu'il y a une activité qui avait été réalisée localement ici, qui revenait à chaque budget, la morgue, et on a fait la morgue. Mais on ne voyait rien. Et on a continué à attendre.
Mais selon vous, en tant que coordonnateur de cette structure provinciale, qu'est-ce qu'il faut réaliser dans 5 ans pour développer l'Équateur? Quelles sont les priorités?
Les priorités, d'abord, c'est la réhabilitation des infrastructures routières. C'est l'ouverture des voies navigables. L'acquisition des embarcations. Ce sont ces éléments-là qui, accompagnés avec la relance de l'agriculture, peuvent faire le développement. Et la relance de l'agriculture doit se faire comment? Par la dynamique communautaire, c'est-à-dire il faut travailler avec les associations à la base, encourager les paysans, leur envoyer des encadreurs, par exemple des moniteurs agricoles autrefois. Nous avons l'ISDER qui produit des techniciens de développement rural. Et nous avons dit, nous avons 832 groupements, regroupés dans 87 secteurs, et nous avons 6800 villages. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la création de l'emploi. Si nous devons affecter les gens qui terminent à l'ISDR, dans chaque groupement ou bien dans chaque secteur, nous aurons des gens qui vont accompagner les populations. Les populations sont découragées parce que lorsqu'ils produisent, les produits ne sont pas évacués. C'est ça le grand problème. C'est ça le grand problème. La disparition de l'ONATRA est un grand coup pour notre province.
Et maintenant, c'est plutôt le secteur privé qui le fait.
Dans quelles conditions voyagent les personnes et les biens? C'est ça le grand problème. La loi dit qu'on ne peut pas transporter les personnes en pontier, c'est-à-dire sur un pont à découvert. Mais il n'y a que l'ONATRA qui avait des bateaux pour prendre les gens et des bateaux courriers. Il y avait des bateaux courriers et des bateaux cargo pour prendre la marchandise. C'est ça le problème. Nous avons des grands centres de production, que sont Bumba par exemple, que sont Guémena, Boussinga et autres. Mais comment évacuer la production? C'est ça le grand problème. Donc les priorités d'abord pour relancer le développement et lutter contre la pauvreté, c'est un ensemble, ça doit marcher ensemble. Je vais vous donner un exemple. Lorsqu'on a lancé la route Mbandaka-Bikoro, 120 km, j'ai dirigé un travail de fin de cycle dans lequel on démontrait que la route n'était pas économiquement rentable. Pour qu'une route soit économiquement rentable, il faut qu'il y ait des moyens d'évacuation et de la production. Donc quand on investit dans une route et qu'il n'y ait pas de moyens d'évacuation et qu'il n'y ait pas la production, la route n'est pas économiquement rentable, c'est devenu une route politique. Aussi, la priorité pour l'Équateur, d'abord pour relancer le développement, c'est la relance de l'agriculture qui donne le revenu aux paysans.
Ben aujourd'hui, on remarque, on observe que c'est la province la plus pauvre de la RDC, l'Équateur.
Oui, le DCRP l'a démontré. Nous avons 93,6%, c'est le taux de pauvreté à l'Équateur. C'est-à-dire, quand vous prenez 100 personnes, il n'y a que 6 personnes qui ont un revenu de 1 dollar par jour. Donc quand on est dans un ménage, de 5 personnes, on doit avoir au moins 5 dollars par jour. Alors à l'Équateur, quand vous prenez 100 personnes, il n'y a que 6 personnes qui peuvent avoir 1 dollar par individu par jour. Donc quand vous prenez le seuil de pauvreté, tel qu'on l'a défini, nous sommes la dernière province.
Mais est-ce que la structure mise en place pour lutter contre la pauvreté porte déjà des fruits ou c'est le statu quo?
Je peux dire que c'est le statu quo. Le statu quo en ce sens que... Mais bien sûr, si je dis que c'est le statu quo, c'est quelque peu trop fort. Parce qu'il y a des actions qui se réalisent grâce aux partenaires. Il y a des écoles qui se construisent. Je rentre par exemple de Bicor et autres là, par-ci, par-là, on est en train de construire des écoles. On construit des écoles, mais ces écoles qui donnent cours, cet enseignant-là qui n'a pas un salaire, qui va demander aux parents, et vous voyez, on construit des écoles, il y a des perditions scolaires. On construit des écoles, il y a des perditions scolaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on voit un petit effort, parce que nous venons d'atteindre, je crois, 67% de taux de scolarisation au primaire, selon le dernier rapport de Mix 2010. On est même au-delà des autres provinces du pays par rapport au taux de scolarisation au primaire. Là, c'est une amélioration. Mais aucun objectif du millénaire ne pourra être atteint, ni par le pays, et moins encore par notre province.
Alors Jean-Louis Foloko, nous sommes à la fin de notre entretien. Un mot à tous ces Bandakés qui nous suivent en ce moment sur Radio Okapi. Pourquoi pas à tous les Congolais à travers le pays et même ceux qui sont à l'étranger. Quel message vous lancez à tous ces Congolais qui espèrent voir un jour la province se développer, se redresser?
Et vous savez, je suis en train d'écrire un document. Le président de la République avait oublié le premier chantier. Le premier chantier aurait été la relance de l'agriculture. C'est le message. Si ce chantier ne figure pas, je vois, on a dissimulé les tracteurs. Ici chez nous, les tracteurs sont venus, mais ils transportent du sable pour la construction des maisons. Ils ne font pas le travail pour lequel. Mais j'ai circulé dans le pays, j'ai vu les tracteurs, comment ils travaillent à Songololo. Je vis ça au Maniema, je vis ça au Kivu, comme les tracteurs travaillent. Je vis ça à Kimpese. Mais chez moi, les tracteurs qui sont venus ne font rien. Si le chantier agriculture n'a pas figuré, mais je vois qu'il y a des choses qui se font là-bas, mais il faut qu'on appuie le paysan à la base.
Merci Jean-Louis Foloko.
Merci Madame Thierry.
Et grand témoin, c'est fini pour aujourd'hui. Je rappelle que je recevais Jean-Louis Efoloko. Il est économiste et coordonnateur provincial du comité provincial de la stratégie des luttes contre la pauvreté dans la province de l'Équateur. Merci à toute l'équipe de Mbandaka qui nous a aidé à préparer cette émission. La technique était assurée par André Mongou au micro Kéline Kouté. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon dimanche chez vous et bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.